L'envers de l'histoire contemporaine, chapitre 2. Avez-vous bien dormi ? Lui demanda Madame de la Chanterie.
Je ne me suis réveillée qu'à 10 heures, répondit Godefroy en saluant les 4 commensaux qui lui rendirent tous son salut avec gravité.
Nous nous y sommes attendus, dit en souriant le vieillard nommé Alain.
Manon m'a parlé d'un second déjeuner, reprit Godefroy. Il paraît que j'ai déjà, sans le vouloir, manqué à la règle. À quelle heure vous levez-vous ?
Nous ne nous levons pas absolument comme les anciens moines, répondit gracieusement Madame de la Chanterie, mais comme les ouvriers, à 6 heures en hiver, à 3 heures et demie en été. Notre coucher obéit également à celui du soleil. Nous sommes toujours endormis à 9 heures en été, à 11 heures en hiver. Nous prenons tous un peu de lait qui vient de notre ferme après avoir dit nos prières, à l'exception de monsieur l'abbé de Vèze, qui dit la première messe, celle de 6 heures en été, celle de 7 heures en hiver, à Notre-Dame, à laquelle ces messieurs assistent tous les jours, ainsi que votre très humble servante.
Madame de la Chanterie achevait cette explication à table, où ses 5 convives s'étaient assis. La salle à manger, entièrement peinte en gris et garnie de boiseries, dont les dessins trahissaient le goût du siècle de Louis XIV, était contiguë à cette espèce d'antichambre où se tenait Manon, et paraissait être parallèle à la chambre de Madame de la Chanterie, qui communiquait sans doute avec le salon. Cette pièce n'avait pas d'autre ornement qu'un vieux cartel. Le mobilier consistait en 6 chaises, dont le dossier de forme ovale offrait des tapisseries évidemment faites à la main par Madame de la Chanterie, en 2 buffets et une table d'acajou, sur laquelle Manon ne mettait pas de nappe pour le déjeuner. Ce déjeuner, d'une frugalité monastique, se composait d'un petit turbot accompagné d'une sauce blanche, 2 pommes de terre, d'une salade et de 4 assiettées de fruits, des pêches, du raisin, des fraises et des amandes fraîches. Puis, pour hors d'œuvre, du miel dans son gâteau, comme en Suisse, du beurre et des radis, des concombres et des sardines. C'était servi dans cette porcelaine fleuretée de bleuets et de feuilles vertes et menues, qui sans doute fut un grand luxe sous Louis XVI, mais que les croissantes exigences de la vie actuelle ont rendu commune.
Nous faisons maigre, dit monsieur Alain. Si nous allons à la messe tous les matins, vous devez deviner que nous obéissons aveuglément à toutes les pratiques, même les plus sévères de l'Église.
Et vous commencerez par nous imiter, dit Madame de la Chanterie en jetant un regard de côté sur Godefroy qu'elle avait mis près d'elle.
Des 5 convives, Godefroy connaissait déjà les noms de Madame de la Chanterie, de l'abbé de Vèze et de monsieur Alain. Mais il lui restait à savoir les noms des 2 autres personnages. Ceux-là gardaient le silence en mangeant avec cette attention que les religieux paraissent prêter aux plus petits détails de leur repas.
« Ces beaux fruits viennent-ils aussi de votre ferme, madame ?» dit Godefroy.
« Oui, monsieur, répondit-elle. Nous avons notre petite ferme modèle, absolument comme le gouvernement. C'est notre maison de campagne. Elle est à 3 lieues d'ici, sur la route d'Italie, après Villeneuve-Saint-Georges. »
C'est un bien qui nous appartient à tous et qui doit rester au dernier survivant, dit le bonhomme Alain.
Oh, ce n'est pas considérable, ajouta Madame de la Chanterie, qui parut craindre que Godefroy ne prît ce discours comme une amorce.
Il y a, dit un des 2 personnages inconnus à Godefroy, 30 arpents de terre labourable, 6 arpents de prés, et un enclos de 4 arpents au milieu duquel se trouve notre maison, qui est précédée par la ferme.
« Mais ce bien-là, répondit Godefroy, doit valoir plus de 100 000 francs.
Oh, nous n'en tirons pas autre chose que nos provisions, répondit le même personnage. C'était un homme grand, sec et grave. Au premier aspect, il paraissait avoir servi dans l'armée. Ses cheveux blancs disaient assez qu'il avait passé la soixantaine, et son visage trahissait de violents chagrins contenus par la religion. Le second inconnu, qui semblait tenir à la fois du régent de rhétorique et de l'homme d'affaires, était de taille ordinaire, gras et néanmoins agile. Sa figure offrait les apparences de la jovialité particulière aux notaires et aux avoués de Paris. Le costume de ces quatre personnages présentait le phénomène de la propreté due à des soins égoïstes. On reconnaissait la même main, celle de Manon, dans les plus petits détails. Leurs habits avaient 10 ans peut-être, et se conservaient comme se conservent les habits des curés, par la puissance occulte de la servante et d'un usage constant. Ces gens portaient en quelque sorte la livrée d'un système d'existence. Ils appartenaient tous à la même pensée, leurs regards disaient le même mot, leurs figures respiraient une douce résignation, une quiétude provocante. « Est-ce une indiscrétion, madame, dit Godefroy, de demander le nom de ces messieurs? Je suis prêt à leur dire ma vie, ne puis-je apprendre de la leur ce que les convenances permettent d'en savoir ?»« Monsieur, répondit madame de la Chanterie en montrant le grand homme sec, se nomme Monsieur Nicolas. Il est colonel de gendarmerie en retraite, avec le grade de maréchal de camp. « Monsieur, ajouta-t-elle en désignant le petit homme gras, est un ancien conseiller à la cour royale de Paris, qui s'est retiré de la magistrature en août 1830. Il se nomme Monsieur Joseph. Quoique vous ne soyez ici que d'hier, je vous dirai que dans le monde, Monsieur Nicolas portait le nom de « Marquis de Montauran » et Monsieur Joseph, celui de « Le Camus, baron de Traîne ». Mais pour nous, comme pour tout le monde, ces noms-là n'existent plus. Ces messieurs sont sans héritier. Ils devancent l'oubli qui attendent leur famille. Et ils sont tout simplement Messieurs Nicolas et Joseph, comme vous serez Monsieur Godefroy. » En entendant prononcer ces deux noms, l'un, si célèbre dans les fastes du royalisme par la catastrophe qui termina la prise d'armes des Chouans au début du consulat, l'autre, si vénéré dans les fastes du vieux Parlement de Paris, Godefroy ne put retenir un tressaillement. Mais en regardant ces deux débris des deux plus grandes choses de la monarchie écroulée, la noblesse et la robe, il n'aperçut aucune inflexion dans les traits, aucun changement de physionomie qui révélât en eux une pensée mondaine. Ces deux hommes ne se souvenaient plus ou ne voulaient plus se souvenir de ce qu'ils avaient été. Ce fut une première leçon pour Godefroy. « Chacun de vos noms, messieurs, est toute une histoire, » leur dit-il respectueusement. « L'histoire de notre temps, » répondit Monsieur Joseph. « Des ruines. » « Vous êtes en bonne compagnie, » reprit en souriant Monsieur Alain. Celui-là sera dépeint en deux mots. C'était le petit bourgeois de Paris, un bon bourgeois à figure de veau, relevé par des cheveux blancs, mais affadi par un sourire éternel. Quant au prêtre, à l'abbé de Vèze, sa qualité disait tout. Le prêtre qui remplit sa mission est connu par le premier regard qu'il vous jette ou qu'on lui jette. Ce qui frappa Godefroy pendant les premiers moments, ce fut le profond respect que les quatre pensionnaires témoignaient à madame de la Chanterie. Ils semblaient tous, même le prêtre, malgré le caractère sacré que lui donnaient ses fonctions, se trouvaient devant une reine. Godefroy remarqua la sobriété de tous les convives. Chacun mangea véritablement pour se nourrir. Madame de la Chanterie prit, comme tous ses commensaux, une seule pêche, une demi-grappe de raisin. Mais elle dit à son nouveau pensionnaire de ne pas imiter cette réserve, en lui présentant tour à tour chaque plat. La curiosité de Godefroy fut excitée au plus haut degré par ce début. Après le dîner, en rentrant au salon, on le laissa seul, et madame de la Chanterie alla tenir un petit conseil secret dans l'embrasure d'une des croisées avec les quatre amis. Cette conférence, sans aucune animation, dura près d'une demi-heure. On parlait à voix basse, en échangeant des paroles que chacun semblait avoir mûries. De temps en temps, M. Alain et M. Joseph consultaient un carnet en le feuilletant. « Voyez le faubourg !» dit madame de la Chanterie à M. Nicolas qui partit. Ce fut la première parole que Godefroy put saisir. « Et vous, le quartier Saint-Marceau ? » reprit-elle en s'adressant à M. Joseph. « Battez le faubourg Saint-Germain et tâchez d'y trouver ce qu'il nous faut !» ajouta-t-elle en regardant l'abbé de Vaise, qui sortit aussitôt. « Et vous, mon cher Alain ? » dit-elle en souriant au dernier. « Passez la revue !»« Voici les affaires d'aujourd'hui décidées !» dit-elle en revenant à Godefroy. Et elle s'assit dans son fauteuil, prit sur une petite table devant elle du linge taillé qu'elle se mit à coudre, comme si elle eût été à la tâche. Godefroy, perdu dans ses conjectures et croyant à une conspiration royaliste, prit la phrase de son hôtesse pour une ouverture, et il se mit à l'étudier en s'asseyant près d'elle. Il fut frappé de la dextérité singulière avec laquelle travaillait cette femme, en qui tout trahissait la grande dame. Elle avait une prestesse d'ouvrière, car tout le monde peut, à certaines façons, reconnaître le fer de l'ouvrier et celui d'un amateur. « Vous allez, » lui dit Godefroy, « comme si vous connaissiez ce métier. »« Hélas, » répondit-elle sans lever la tête, « je l'ai fait jadis par nécessité. » Deux grosses larmes jaillirent des yeux de cette vieille femme et tombèrent du bas de ses joues sur le linge qu'elle tenait. « Pardonnez-moi, madame, » s'écria Godefroy. Madame de la Chanterie regarda son nouveau pensionnaire et vit sur sa figure une telle expression de regret qu'elle lui fit un signe amical. Après s'être essuyé les yeux, elle reprit aussitôt le calme qui caractérisait sa figure moins froide que froidie. « Vous êtes ici, monsieur Godefroy, car vous savez déjà qu'on ne vous nommera que par votre nom de baptême. Vous êtes au milieu des débris d'une grande tempête. Nous sommes tous meurtris et atteints dans nos cœurs, dans nos intérêts de famille ou dans nos fortunes, par cet ouragan de 40 années qui a renversé la royauté, la religion, et dispensé les éléments de ce qui faisait la vieille France. Des mots indifférents en apparence nous blessent tous, et telle est la raison du silence qui règne ici. Nous nous parlons rarement de nous-mêmes. Nous nous sommes oubliés, et nous avons trouvé le moyen de substituer une autre vie à notre vie. Et c'est parce que j'ai cru, d'après votre confidence chez mon genou, à quelque parité entre votre situation et la nôtre, que j'ai décidé mes quatre amis à vous recevoir parmi nous. Nous avions besoin d'ailleurs de trouver un moine de plus pour notre couvent. Mais qu'allez-vous faire ? On n'aborde pas la solitude sans provision morale. Madame, je serais très heureux, en vous entendant parler ainsi, de vous voir devenir l'arbitre de ma destinée. Vous parlez en homme du monde, répondit-elle, et vous tâchez de me flatter, moi, femme de 60 ans. Mon cher enfant, reprit-elle, sachez que vous êtes au milieu de gens qui croient fortement à Dieu, qui tous ont senti sa main, et qui se sont livrés à lui presque aussi entièrement que les trappistes. Avez-vous remarqué la sécurité profonde du vrai prêtre quand il s'est donné au Seigneur, qu'il en écoute la voix et qu'il s'efforce d'être un instrument docile aux doigts de la Providence? Il n'a plus ni vanité, ni amour-propre, ni rien de ce qui cause aux gens du monde des blessures continuelles. Sa quiétude égale celle du fataliste, sa résignation lui fait tout supporter. Le vrai prêtre, un abbé de Vaise, est alors comme un enfant avec sa mère, car l'Église, mon cher monsieur, est une bonne mère. Eh bien, on peut se faire prêtre sans tonsure. Tous les prêtres ne sont pas dans les ordres. Se vouer au bien, C'est imiter le bon prêtre, c'est obéir à Dieu. Je ne vous prêche pas, je ne veux pas vous convertir, je veux vous expliquer notre vie. Instruisez-moi, madame, dit Godefroy subjugué, que je ne manque à aucun article de votre règlement. Vous auriez trop à faire, vous l'apprendrez par degrés. Avant tout, ici, ne parlez jamais de vos malheurs qui sont des enfantillages comparés aux catastrophes terribles sous lesquelles Dieu a foudroyé ceux avec qui vous êtes en ce moment. En parlant ainsi, madame de la Chanterie tirait toujours ses poings avec une régularité désespérante. Mais là, elle leva la tête et regarda Godefroy. Elle le trouva charmé par la pénétrante douceur de sa voix, qui, disons-le, possédait une onction apostolique. Le jeune malade contemplait avec admiration le phénomène vraiment extraordinaire que présentait cette femme dont le visage resplendissait. Des teintes rosées s'étaient répandues sur ses joues d'un blanc de cierge, ses yeux brillaient, la jeunesse de l'âme animait ses légères rides devenues gracieuses, et tout en elle sollicitait l'affection. Godefroy mesurait en ce moment la profondeur de l'abîme qui séparait cette femme des sentiments vulgaires. Il la voyait arriver sur un pic inaccessible où la religion l'avait conduite, et il était encore trop mondain pour ne pas être piqué au vif, pour ne pas désirer de descendre dans ce fossé, de monter la cime aiguë où madame de la Chanterie était posée, et s'y placer près d'elle. En se livrant à une étude approfondie de cette femme, il lui raconta les déceptions de sa vie et tout ce qu'il n'avait pu dire chez Mongenod, où sa confidence était restreinte à l'exposé de sa situation. « Pauvre enfant !» Cette exclamation maternelle, tombée des lèvres de madame de la Chanterie, arrivait par moments comme un baume sur le cœur du jeune homme. « Que puis-je substituer à tant d'espérances trompées, à tant d'affections trahies ? » demanda-t-il enfin en regardant son hôtesse devenue rêveuse. « Je suis venu ici, reprit-il, y réfléchir et prendre un parti. J'ai perdu ma mère. Remplacez-la. » « Aurez-vous, dit-elle, l'obéissance d'un fils ? Oui, si vous avez toute la tendresse qui la commande. « Eh bien, nous essaierons, » répliqua-t-elle. Godefroy tendit sa main pour prendre une des mains de son hôtesse, qui la lui offrit en devinant son intention, et il la porta respectueusement à ses lèvres. La main de madame de la Chanterie était admirablement belle, sans rides, ni grasse ni maigre, blanche à faire envie à une jeune femme, et d'une tournure à être copiée par un statuaire. Godefroy avait admiré ses mains en les trouvant en harmonie avec les enchantements de la voix, avec le bleu céleste du regard. « Restez là, » dit madame de la Chanterie en se levant et en rentrant chez elle. Godefroy éprouva la plus vive émotion et ne savait à quel ordre d'idées attribuer le mouvement de cette femme. Il ne demeura pas pendant longtemps dans ses perplexités, car elle rentra tenant un volume à la main. « Voici, dit-elle, mon cher enfant, les ordonnances d'un grand médecin des âmes. Quand les choses de la vie ordinaire ne nous ont pas donné le bonheur que nous en attendions, il faut chercher le bonheur dans la vie supérieure, et voici la clé d'un nouveau monde. Lisez, soir et matin, un chapitre de ce livre, mais lisez-le en y prêtant toute votre attention, étudiez-en les paroles comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Au bout d'un mois, vous serez un tout autre homme. Voici 20 ans que je lis tous les jours un chapitre, et mes 3 amis, messieurs Nicolas, Alain et Joseph, ne manquent pas plus à cette pratique qu'ils ne manquent à se coucher et à se lever. Imitez-les pour l'amour de Dieu, pour l'amour de moi, dit-elle avec une sérénité divine, avec une auguste confiance. Godefroy retourna le livre et lut au dos, en lettres d'or, « Imitation de Jésus-Christ ». La naïveté de cette vieille femme, sa candeur juvénile, sa certitude de bienfaisance confondirent l'ex-dandy. Madame de la Chanterie était absolument dans l'attitude et le ravissement d'une femme qui tendrait 100 000 francs à un négociant sur le point de faire faillite. « Je m'en suis servie, dit-elle, depuis 26 ans. Dieu veuille que ce livre soit contagieux. Allez m'en acheter un autre, car voici l'heure à laquelle doivent venir des personnes qui ne doivent pas être vues. » Godefroy salua madame de la Chanterie et remonta dans sa chambre, où il jeta le livre sur une table en s'écriant « Pauvre bonne femme, va !» Le livre, comme tous les livres fréquemment lus, s'ouvrit à un endroit. Godefroy s'assit comme pour mettre ses idées en ordre, car il avait éprouvé plus d'émotion dans cette matinée que durant les mois les plus agités de sa vie, et sa curiosité surtout n'avait jamais été si vivement excitée. En laissant aller ses yeux au hasard, comme il arrive aux gens dont l'âme est lancée dans la méditation, il regarda machinalement les deux pages que présentait le livre, et il lut, malgré lui, cet intitulé. Chapitre 12 Du chemin royal de la Sainte-Croix. Et il prit le livre. Et cette phrase de ce beau chapitre saisit son regard comme par un flamboiement. Il a marché devant vous, chargé de sa croix, et il est mort pour vous, afin que vous portiez votre croix, et que tous désiriez y mourir. Allez où vous voudrez. Faites tant de recherches qu'il vous plaira. Vous ne trouverez pas de voie plus élevée ni plus sûre que le chemin de la Sainte-Croix. Disposez et réglez toutes choses selon vos désirs et vos vues. Vous n'y rencontrerez qu'un engagement à souffrir toujours quelque peine, soit que vous le vouliez ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix, car vous vous sentirez de la douleur dans le corps, ou vous aurez à souffrir des peines dans l'esprit. Tantôt vous serez délaissé de Dieu, tantôt les hommes vous donneront de l'exercice. Bien plus, vous serez souvent à charge à vous-même, sans pouvoir être délivré par aucun remède, ni soulagé par aucune consolation. Et jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'y mettre fin, vous serez obligé de souffrir, car Dieu veut que vous appreniez à souffrir sans consolation, afin que vous vous soumettiez à lui sans réserve, et que vous deveniez plus humble par le moyen des tribulations. Quel livre ! Se dit-il en feuilletant ce chapitre. Et il tomba sur ces paroles. Quand vous serez parvenu à ce point que de trouver les afflictions douces et d'y prendre goût pour l'amour de Jésus-Christ, alors croyez-vous heureux, parce que vous aurez trouvé le paradis en ce monde. Importuné par cette simplicité, caractère de la force, et furieux d'être battu par ce livre, il le ferma. Mais il trouva ce conseil gravé en lettres d'or sur le maroquin vert de la couverture. « Ne cherchez que ce qui est éternel. » « Et l'ont-ils trouvé ici ? » se demanda-t-il. Il sortit pour aller chercher un bel exemplaire de l'Imitation de Jésus-Christ, en pensant que madame de la Chanterie avait à en lire un chapitre le soir. Il descendit et gagna la rue. Il resta pendant quelques instants à deux pas de la porte, indécis sur le chemin à prendre, en se demandant à quel endroit, dans quelle librairie, il irait acheter son livre. Et il entendit alors le bruit lourd de la massive porte cochère qui se fermait. Deux hommes sortaient de l'hôtel de la Chanterie, car si l'on a bien saisi le caractère de cette vieille maison, on y aura reconnu celui qui distingue les anciens hôtels. Manon, en venant avertir Godefroy le matin, lui avait demandé comment il avait passé sa première nuit à l'hôtel de la Chanterie, évidemment en riant. Godefroy suivit, sans aucune idée d'espionnage, les deux hommes qui le prirent pour un passant et qui, dans ces rues désertes, parlèrent assez haut pour qu'il pût entendre leur conversation. Les deux inconnus retournaient par la rue Massillon pour longer Notre-Dame et traverser le parvis. « Eh bien, tu vois, mon vieux, qu'il est assez facile de leur attraper des sous. Faut dire comme eux, voilà tout. »« Mais nous devons ?»« À qui ?»« À cette dame. »« Je voudrais bien me voir poursuivi par cette vieille carcasse. Je la... Tu la payerais? Tu as raison, car en payant, j'aurai plus tard encore plus qu'aujourd'hui. Ne voudrait-il pas mieux nous conduire par leurs conseils et arriver à faire un bon établissement? Ah bah! Puisqu'ils nous trouveraient des bailleurs de fonds, a-t-elle dit. Il faudrait quitter aussi la vie... La vie m'ennuie. C'est pas être un homme que d'être toujours dans les vignes. Oui, mais l'abbé n'a-t-il pas lâché l'autre jour le père Marin? Il lui a tout refusé. Ah bah, le père Marin voulait faire des filouteries qui ne peuvent réussir qu'aux millionnaires. En ce moment, ces deux hommes, dont la tenue indiquait des contremaîtres d'atelier, retournèrent brusquement sur leurs pas pour aller chercher le quartier de la place Maubert par le pont de l'Hôtel-Dieu. Godefroy s'écarta, mais en se voyant suivi de si près par lui, tous deux échangèrent un regard de défiance et leur visage exprima le regret d'avoir parlé. Godefroy fut d'autant plus intéressé par cette conversation qu'elle lui rappela la scène de l'abbé de Vaise et de l'ouvrier le jour de sa première visite. « Que se passe-t-il donc chez madame de la Chanterie ? » se demanda-t-il encore. En méditant cette question, il alla jusque chez un libraire de la rue Saint-Jacques et revint avec un exemplaire très riche de la plus belle édition qu'on ait faite en France de l'Imitation de Jésus-Christ. En venant à Palan pour se trouver à l'heure exacte du dîner, il rappelait en lui-même ses sensations pendant cette matinée, et il en ressentait une extrême fraîcheur d'âme. Il était pris d'une curiosité profonde, mais sa curiosité pâlissait néanmoins sous un désir inexplicable. Il était attiré vers madame de la Chanterie. Il éprouvait une violente envie de s'attacher à elle, de se dévouer pour elle, de lui plaire, de mériter ses éloges. Enfin, il était atteint d'amour platonique. Il pressentait des grandeurs inouïes dans cette âme. Il voulait la connaître dans son entier. Il était impatient de pénétrer les secrets de l'existence de ces purs catholiques. Enfin, dans cette petite réunion de fidèles, la majesté de la religion pratiquée était si bien alliée à ce que la femme française a de majestueux qu'il résolut de tout faire pour s'y faire agréger. Ses sentiments eussent été bien prompts chez un Parisien occupé. Mais Godefroy était, comme on l'a vu, dans la situation des naufragés qui s'attachent aux plus flexibles branches en les croyant solides, et il avait une âme labourée, prête à recevoir toute semence. Il trouva les quatre amis au salon, et il présenta le livre à madame de la Chanterie en lui disant « Je n'ai pas voulu vous en priver pour ce soir. »« Dieu veuille !» répondit-elle en regardant le magnifique volume. « Que ce soit votre dernier accès d'élégance !» En voyant chez ces quatre personnages les moindres choses des vêtements réduits au propre et à l'utile, en trouvant ce système appliqué rigoureusement dans les moindres détails de la maison, Godefroy comprit la valeur de ce reproche si gracieusement exprimé. « Madame, dit-il, les gens que vous avez obligés ce matin sont des monstres. J'ai sans le vouloir entendu les propos qu'il tenait en sortant d'ici, et il y régnait la plus noire ingratitude. « C'est les deux serruriers de la rue Mouffetard, dit madame de la Chanterie à monsieur Nicolas. « Cela vous regarde ?»« Le poisson se sauve plus d'une fois avant d'être pris, » répondit en riant monsieur Alain. La parfaite insensibilité de madame de la Chanterie, en apprenant l'ingratitude immédiate des gens à qui sans doute elle avait donné de l'argent, surprit Godefroy qui devint pensif. Le dîner fut égayé par monsieur Alain et par l'ancien conseiller. Mais le militaire resta grave, triste et froid. Il portait sur sa figure l'empreinte ineffable d'un chagrin amer, d'une douleur éternelle. Madame de la Chanterie avait des attentions égales pour tous. Godefroy se sentit observé par ces gens, dont la prudence égalait la piété. Sa vanité lui fit imiter leur réserve, et il mesura beaucoup ses paroles. Cette première journée devait être beaucoup plus animée que les suivantes. Godefroy, qui se vit mis en dehors de toutes les conférences sérieuses, fut obligé, pendant les quelques heures de la matinée et de la soirée, où il était seul chez lui, d'ouvrir l'Imitation de Jésus-Christ. Et il finit par étudier ce livre, comme on étudie un livre quand on n'en possède qu'un et qu'on se trouve emprisonné. Il en est alors de ce livre comme d'une femme, quand on est avec elle dans la solitude. De même qu'il faut haïr ou adorer la femme, de même on se pénètre de l'esprit de l'auteur, où vous ne lisez pas 10 lignes. Or, il est impossible de ne pas être saisi par l'imitation, qui est au dogme ce que l'action est à la pensée. Le catholicisme y vibre, s'y meut, s'agite, s'y prend corps à corps avec la vie humaine. Ce livre est un ami sûr. Il parle à toutes les passions, à toutes les difficultés, même mondaines. Il résout toutes les objections. Il est plus éloquent que tous les prédicateurs, car sa voix est la vôtre. Elle s'élève dans votre cœur et vous l'entendez par l'âme. C'est enfin l'Évangile traduit, approprié à tous les temps, superposé à toutes les situations. Il est extraordinaire que l'Église n'ait pas canonisé Gerson, car l'Esprit-Saint animait évidemment sa plume. Pour Godefroy, l'autel de la Chanterie renfermait une femme, outre le livre, et il s'éprenait de jour en jour davantage de cette femme. Il découvrait en elle des fleurs ensevelies sous la neige des hivers. Il entrevoyait les délices de cette amitié sainte que la religion permet, à laquelle les anges sourient, qui liait d'ailleurs ces 5 personnes, et contre laquelle rien de mauvais ne pouvait prévaloir. Il est un sentiment supérieur à tous les autres, un amour d'âme à âme qui ressemble à ces fleurs si rares, nées sur les pics les plus élevés de la terre, et dont 1 ou 2 exemples sont offerts à l'humanité de siècle en siècle, par lequel souvent des amants se sont unis, et qui rendent raison des attachements fidèles, inexplicables par les lois ordinaires du monde. C'est un attachement sans aucun mécompte, sans brouille, sans vanité, sans lutte, sans contraste même, tant les natures morales se sont également confondues. Ce sentiment immense, infini, né de la charité catholique, Godefroy en entrevoyait les délices. Il ne pouvait pas croire par moments au spectacle qu'il avait sous les yeux, et il cherchait des raisons à l'amitié sublime de ces 5 personnes. Étonné de trouver de vrais catholiques, des chrétiens du premier temps de l'Église dans le Paris de 1835. 8 jours après son entrée au logis, Godefroy avait été témoin d'un tel concours de gens, il avait surpris des fragments de conversation où il s'agissait de choses si graves, qu'il entrevit une prodigieuse activité dans la vie de ces 5 personnes. Il s'aperçut que chacune d'elles dormait 6 heures au plus. Toutes, elles avaient déjà fait, en quelque sorte, une première journée lors du second déjeuner. Des étrangers apportaient ou remportaient des sommes, parfois importantes. Le garçon de caisse de Montgenot venait souvent, et toujours de grand matin, de manière à ce que son service ne souffrît pas de ses courses, en dehors des habitudes de la maison de banque. Monsieur Montgenot lui-même vint un soir, et Godefroy remarqua chez lui, pour Monsieur Alain, des nuances de familiarité filiale, mêlées au profond respect qu'il lui témoignait, comme aux 3 autres pensionnaires de Madame de la Chanterie. Ce soir-là, le banquier ne fit à Godefroy que des questions banales. S'il se trouvait bien ici, s'il y resterait, etc., en l'engageant à persévérer dans sa résolution. « Il ne me manque qu'une seule chose pour être heureux, » dit Godefroy. « Eh quoi ? » demanda le banquier. « Une occupation. »« Une occupation ? » reprit l'abbé de Vaise. « Vous avez donc changé d'avis ? Vous étiez venu dans notre cloître y chercher le repos. » Le repos sans la prière qui vivifiait les monastères, sans la méditation qui peuplait les thébaïdes, devient une maladie, dit sentencieusement Monsieur Joseph. Apprenez la tenue des livres, dit en souriant Monsieur Montgenot. Vous pourrez devenir dans quelques mois très utile à mes amis.
« Oh, avec bien du plaisir !»
s'écria Godefroy. Le lendemain était un dimanche. Madame de la Chanterie exigea de son pensionnaire qu'il lui donnât le bras pour aller à la grand-messe.
« C'est, dit-elle, la seule violence que je veuille vous faire. Maintes fois, durant cette semaine, j'ai voulu vous parler de votre salut, mais je ne crois pas le moment venu. Vous seriez bien occupé si vous partagiez nos croyances, car vous partageriez aussi nos travaux. »
À la messe, Godefroy observa la ferveur de messieurs Nicolas, Joseph et Alain. Mais, comme, pendant ces quelques jours, il avait pu se convaincre de la supériorité, de la perspicacité, de l'étendue des connaissances, du grand esprit de ces messieurs, il pensa que, s'il s'humiliait ainsi, la religion catholique avait des secrets qui jusqu'alors lui avaient échappé.
« C'est, après tout, se dit-il en lui-même, la religion des Bossuet, des Pascal, des Racine, des Saint-Louis, des Louis XIV, des Raphaël, des Michel-Ange, des Ximénez, des Bayard, des Duguesclin. Et je ne saurais, moi, chétif, me comparer à ces intelligences, à ces hommes d'État, à ces poètes, à ces capitaines.
S'il ne devait pas résulter un enseignement profond de ces menus détails, il serait imprudent de s'y arrêter par le temps qui court. Mais ils sont indispensables à l'intérêt de cette histoire, à laquelle le public actuel croira déjà difficilement, et qui débute par un fait presque ridicule. L'empire que prenait une femme de 60 ans sur un jeune homme désabusé de tout.
« Vous n'avez pas prié ?» dit madame de la Chanterie à Godefroy sur la porte de Notre-Dame. « Pour personne, pas même pour le repos de l'âme de votre mère. »
Godefroy rougit et garda le silence.
« Faites-moi le plaisir, lui dit madame de la Chanterie, de monter chez vous et de ne pas descendre au salon avant 1 heure. Si vous m'aimez, ajouta-t-elle, vous méditerez le chapitre de l'Imitation, le premier du 3e livre, intitulé « De la conversation intérieure ».
Godefroy salua froidement et monta chez lui.
« Que le diable les emporte !» se dit-il en se livrant à une colère sérieuse. « Que veulent-ils de moi ici? Que s'y trafiquent-ils? Bah, toutes les femmes, même les dévotes, ont les mêmes ruses. Et si madame, dit-il en appelant son hôtesse du nom que lui donnaient ses pensionnaires, ne veut pas de moi, c'est qu'il se trame quelque chose contre moi. »
Dans cette pensée, il essaya de regarder par sa fenêtre dans le salon, mais la disposition des lieux ne lui permit pas d'y voir. Il descendit un étage et remonta vivement chez lui, car il pensa que, d'après la rigidité des principes des habitants de la maison, un acte d'espionnage le ferait congédier aussitôt. Perdre l'estime de ces 5 personnes lui sembla tout aussi grave que de se déshonorer publiquement. Il attendit environ 3 quarts d'heure et résolut de surprendre madame de la Chanterie en devançant l'heure indiquée. Il inventa de se justifier par un mensonge en disant que sa montre allait mal et il l'avança de 20 minutes. Puis il descendit en ne faisant pas le moindre bruit. Il arriva jusqu'à la porte du salon et l'ouvrit brusquement. Il vit alors un homme, assez célèbre, jeune encore, un poète qu'il avait rencontré souvent dans le monde. Victor de Vernissé, un genou en terre devant madame de la Chanterie et lui baisant le bas de sa robe. Le ciel tombant en éclats, comme s'il eût été de cristal, comme le croyaient les anciens, eut moins surpris Godefroy que ce spectacle. Il lui vint les plus affreuses pensées, et il y eut une réaction plus terrible encore, quand, au premier sarcasme qu'il lui vint sur les lèvres et qu'il allait prononcer, il vit dans un coin du salon Monsieur Alain comptant des billets de 1000 francs. En un moment, Vernissé fut sur ses 2 pieds, et le bonhomme Alain resta saisi. Madame de la Chanterie, elle, lança sur Godefroy un regard qui le pétrifia, car la double expression du visage de son nouvel hôte ne lui avait pas échappé. « Monsieur, dit-elle au jeune poète en lui montrant Godefroy, est un des nôtres. » « Vous êtes bien heureux, mon cher, dit Vernisset. Vous êtes sauvé. » « Mais, madame, reprit-il en se tournant vers madame de la Chanterie, quand tout Paris m'aurait vu, j'en serais heureux. Rien ne peut m'acquitter envers vous. Je me suis acquis à jamais. Je vous appartiens entièrement. Commandez-moi quoi que ce soit, j'obéirai. Ma reconnaissance sera sans borne. Je vous dois la vie. Elle est à vous. » « Allons, dit le bon Alain, jeune homme, soyez sage. Seulement, travaillez, et surtout, n'attaquez jamais la religion dans vos œuvres. Enfin, souvenez-vous de votre dette. » Et il lui tendit une enveloppe grossie par les billets de banque qu'il avait comptés. Victor de Vernisset eut les yeux mouillés de larmes. Il baisa respectueusement la main de madame de la Chanterie, et il partit après avoir échangé une poignée de main avec M. Alain et Godefroy. « Vous n'avez pas obéi à madame, » dit solennellement le bonhomme, dont le visage eut une expression triste que Godefroy ne lui avait pas encore vue. « C'est une faute capitale. Encore deux et nous nous quitterons. Ce sera bien dur pour vous, après nous avoir paru dignes de notre confiance. » « Mon cher Alain, dit madame de la Chanterie, ayez pour moi la bonté de vous taire sur cette étourderie. Il ne faut pas trop demander à un nouvel arrivé qui n'a pas eu de grand malheur, qui n'a pas de religion, qui n'a qu'une excessive curiosité pour toute vocation et qui ne croit pas encore en nous. « Pardonnez-moi, madame, répondit Godefroy, je veux dès ce moment être digne de vous. Je me soumets à toutes les épreuves que vous jugerez nécessaires avant de m'initier au secret de vos occupations, et si monsieur l'abbé de Vaise veut entreprendre de m'éclairer, je lui livrerai mon âme et ma raison. » Ces paroles rendirent madame de la Chanterie si heureuse que ses joues se couvrirent d'une petite rougeur. Elle saisit la main de Godefroy, la lui serra, puis elle lui dit avec une étrange émotion, « C'est bien. » Le soir, après le dîner, Godefroy vit venir un vicaire général du diocèse de Paris, deux chanoines, deux anciens maires de Paris et une dame de charité. L'on ne joua point. La conversation générale fut gaie, sans être futile. Une visite qui surprit étrangement Godefroy fut celle de la comtesse de Saint-Signe, l'une des sommités aristocratiques et dont le salon était inabordable pour la bourgeoisie et pour les parvenus. La présence de cette grande dame dans le salon de madame de la Chanterie était déjà bien extraordinaire. Mais la manière dont ces deux femmes s'abordèrent et se traitèrent fut pour Godefroy quelque chose d'inexplicable, car elle attestait une intimité, des relations constantes qui donnaient une immense valeur à madame de la Chanterie. Madame de Saint-Signe fut gracieuse et affectueuse avec les quatre amis de son ami et marqua du respect à M. Nicolas. On voit que la vanité sociale gouvernait encore Godefroy, qui, jusqu'alors assez indécis, résolut de se prêter, avec ou sans conviction, à tout ce que madame de la Chanterie et ses amis exigeraient de lui, pour arriver à se faire affilier par eux à leur ordre, ou se faire initier à leur secret, en se promettant alors seulement de prendre un parti. Le lendemain, il alla chez le teneur de livres que madame de la Chanterie lui indiqua, convint avec lui des heures auxquelles ils travailleraient ensemble, et il eut ainsi l'emploi de tout son temps, car l'abbé de Vaise le catéchisait le matin, il allait passer tous les jours 2 heures chez le teneur de livres, et il travaillait, entre le déjeuner et le dîner, aux écritures commerciales imaginaires que son maître lui faisait tenir. Quelques jours se passèrent ainsi, pendant lesquels Godefroy sentit le charme d'une vie où chaque heure a son emploi. Le retour de travaux connus à des moments déterminés, la régularité rend raison de bien des existences heureuses et prouve combien les fondateurs des ordres religieux avaient profondément médité sur la nature de l'homme. Godefroy, qui s'était promis à lui-même d'écouter l'abbé de Vaise, avait déjà des craintes sur sa vie future, et commençait à trouver qu'il ignorait la gravité des questions religieuses. Enfin, de jour en jour, Madame de la Chanterie, près de laquelle il restait environ une heure après le second déjeuner, lui laissait découvrir de nouveaux trésors en elle. Il n'avait jamais imaginé de bonté si complète, ni si étendue. Une femme de l'âge que Madame de la Chanterie paraissait avoir n'a plus aucune des petitesses de la jeune femme. C'est un ami qui vous offre toutes les délicatesses féminines, qui déploie les grâces, les recherches que la nature inspire à la femme pour l'homme et qui ne les vend plus. Elle est exécrable ou parfaite, car toutes ses prétentions subsistent sous l'épiderme, ou sont mortes, et Madame de la Chanterie était parfaite. Elle semblait n'avoir jamais eu de jeunesse, son regard ne parlait jamais du passé. Loin d'apaiser la curiosité de Godefroy, la connaissance de plus en plus intime de ce sublime caractère, les découvertes de chaque jour redoublaient son désir d'apprendre la vie antérieure de cette femme qu'il trouvait sainte. Avait-elle jamais aimé? Avait-elle été mariée? Avait-elle été mère? Rien en elle ne trahissait la vieille fille. Elle déployait les grâces d'une femme bien née, et l'on devinait dans sa robuste santé, dans le phénomène extraordinaire de sa conservation, une vie céleste, une sorte d'ignorance de la vie. Excepté le gai bonhomme Alain, tous ces êtres avaient souffert. Mais Monsieur Nicolas lui-même semblait donner la palme du martyr à Madame de la Chanterie. Et néanmoins, le souvenir de ses malheurs était si bien contenu par la résignation catholique, par ses occupations secrètes, qu'elle semblait avoir été toujours heureuse. « Vous êtes, lui dit un jour Godefroy, la vie de vos amis. Vous êtes le lien qui les unit. Vous êtes, pour ainsi dire, la femme de ménage d'une grande œuvre. Et comme nous sommes tous mortels, je me demande ce que deviendrait votre association sans vous. » C'est ce qui les effraie. Mais la Providence, à laquelle nous avons dû notre teneur de livre, dit-elle en souriant, y pourvoira. D'ailleurs, je chercherai. Votre teneur de livre sera-t-il bientôt au service de votre maison de commerce? Répondit Godefroy en riant. Ceci dépend de lui, reprit-elle en souriant. Qu'il soit sincèrement religieux, qu'il soit pieux, qu'il n'ait plus le moindre amour-propre, qu'il ne s'inquiète plus des richesses de notre maison, qu'il songe à s'élever au-dessus des petites considérations sociales en se servant des deux ailes que Dieu nous a données.
Quoi?
La simplicité, la pureté, répondit Madame de la Chanterie. Votre ignorance me dit assez que vous négligez la lecture de notre livre, ajouta-t-elle en riant de l'innocent subterfuge auquel elle avait eu recours pour savoir si Godefroy lisait l'Imitation de Jésus-Christ. Enfin, pénétrez-vous de l'épître de saint Paul sur la charité. Ce n'est pas vous, dit-elle avec une expression sublime, qui serez à nous, c'est nous qui serons à vous, et il vous sera permis de compter les plus immenses richesses qu'aucun souverain ait possédées. Vous en jouirez comme nous en jouissons. Et laissez-moi vous dire, si vous vous souvenez des mille et une nuits, que les trésors d'Aladin ne sont rien comparés à ce que nous possédons. Aussi, depuis un an, ne savons-nous plus comment faire, nous n'y suffisons plus. Il nous fallait un teneur de livre. » En parlant, elle étudiait le visage de Godefroy, qui ne savait que penser de cette étrange confidence. Mais comme la scène de Madame de la Chanterie et de Madame Mongenod la mère lui revenait souvent dans la mémoire, il restait entre le doute et la croyance. « Ah, vous seriez bien heureux, » dit-elle. Godefroy fut tellement dévoré de curiosité que, dès ce moment, il résolut de faire fléchir la discrétion des quatre amis et de les interroger sur eux-mêmes. De tous les commensaux de Madame de la Chanterie, celui vers qui Godefroy se sentait le plus entraîné, et qui paraissait aussi devoir exciter le plus de sympathie chez les gens de toute classe, était le bon, le gai, le simple Monsieur Alain. Par quelle voie La Providence avait-elle amené cet être si candide dans ce monastère sans clôture, dont les religieux agissaient sous l'empire d'une règle observée, au milieu de Paris, en toute liberté, comme s'ils eussent eu le supérieur le plus sévère? Quel drame, quel événement lui avait fait quitter son chemin dans le monde, pour prendre ce sentier si pénible à parcourir à travers les malheurs d'une capitale? Un soir, Godefroy voulut faire une visite à son voisin, dans l'intention de satisfaire une curiosité plus éveillée par l'impossibilité de toute catastrophe dans cette existence qu'elle ne l'eût été par l'attente du récit de quelque terrible épisode dans la vie d'un corsaire. Au mot « Entrez !» donné comme réponse à deux coups frappés discrètement, Godefroy tourna la clé qui restait toujours dans la serrure et trouva M. Alain assis au coin de son feu, lisant, avant de se coucher, un chapitre de l'Imitation de Jésus-Christ, à la lueur de deux bougies coiffées chacune d'un de ces garde-vues verts, mobiles, dont se servent les joueurs de whist. Le bonhomme était en pantalon à pied, dans sa robe de chambre de molleton grisâtre, et tenait ses pieds à la hauteur du feu, sur un coussin fait, ainsi que ses pantoufles, par Madame de la Chanterie, en tapisserie au petit point. Cette belle tête de vieillard, sans autre accompagnement qu'une couronne de cheveux blancs presque semblable à celle d'un vieux moine, se détachait en clair sur le fond brun de la tapisserie de l'immense fauteuil. Monsieur Alain posa doucement sur la petite table à colonne torse son livre usé aux quatre coins et montra de l'autre main son autre fauteuil au jeune homme, en notant les lunettes qui lui pinçaient le bout du nez. « Souffrez-vous pour être sorti de chez vous à cette heure ? » demanda-t-il à Godefroy. « Cher monsieur Alain, répondit franchement Godefroy, je suis tourmenté par une curiosité qu'un seul mot de vous fera très innocente ou très indiscrète, et c'est assez vous dire en quel esprit je vous adresserai ma question. « Oh oh, quelle est-elle ? » fit-il en regardant le jeune homme d'un air presque malicieux. « Quel est le fait qui vous a conduit à mener la vie que vous menez ici ? Car pour embrasser la doctrine d'un pareil renoncement à tout intérêt, on doit être dégoûté du monde, y avoir été blessé, ou y avoir blessé les autres. « Eh quoi, mon enfant ? » répondit le vieillard en laissant errer sur ses larges lèvres un de ces sourires qui rendait sa bouche vermeille une des plus affectueuses que le génie des peintres ait pu rêver. Ne peut-on se sentir ému d'une pitié profonde au spectacle des misères que Paris enferme dans ses murs ? Saint-Vincent de Paul a-t-il eu besoin de l'aiguillon du remords ou de la vanité blessée pour se vouer aux enfants abandonnés ? Ceci me ferme d'autant plus la bouche que si jamais une âme a ressemblé à celle de ce héros chrétien, c'est assurément la vôtre, répondit Godefroy. Malgré la dureté que l'âge avait imprimée à la peau de son visage, presque jaune et ridé, le vieillard rougit excessivement, car il semblait avoir provoqué cet éloge, auquel sa modestie bien connue permettait de croire qu'il n'avait pas songé. Godefroy savait bien que les commensaux de Madame de la Chanterie étaient sans aucun goût pour cet encens. Néanmoins, l'excessive simplicité du bonhomme Alain fut plus embarrassée de ce scrupule qu'une jeune fille aurait pu l'être d'avoir conçu quelques pensées mauvaises. « Si je suis encore bien loin de lui au moral, reprit M. Alain, je suis bien sûr de lui ressembler au physique. » Godefroy voulut parler, mais il en fut empêché par un geste du vieillard, dont le nez avait en effet l'apparence tuberculeuse de celui du saint, et dont la figure, semblable à celle d'un vieux vigneron, était le vrai duplicata de la grosse figure commune du fondateur des enfants trouvés. « Quant à moi, vous avez raison, dit-il en continuant. Ma vocation pour notre œuvre fut déterminée par un sentiment de repentir, à cause d'une aventure. « Vous ? Une aventure ? » s'écria doucement Godefroy, à qui ce mot fit oublier ce qu'il voulait répondre d'abord au vieillard. Oh, mon Dieu, ce que je vais vous raconter vous paraîtra sans doute une bagatelle, une niaiserie, mais au tribunal de la conscience, il en fut autrement. Si vous persistez dans votre désir de participer à nos œuvres, après m'avoir écouté, vous comprendrez que les sentiments sont en raison de la force des âmes, et que le fait qu'ils ne tourmentent pas un esprit fort peut très bien troubler la conscience d'un faible chrétien. Après cette espèce de préface, on ne saurait exprimer à quel degré de curiosité le néophyte arriva. Quel était le crime de ce bonhomme que Madame de la Chanterie appelait son agneau pascal? C'était aussi intéressant qu'un livre intitulé « Les crimes d'un mouton ». Les moutons sont peut-être féroces envers les herbes et les fleurs. À entendre un des plus doux républicains de ce temps-ci, le meilleur des êtres serait encore cruel envers quelque chose. Mais le bonhomme Alain, lui qui, semblable à l'oncle Toby de Sterne, n'écrasait pas une mouche après avoir été piqué 20 fois par elle. Cette belle âme, avoir été torturée par un repentir. Cette réflexion représente le point d'orgue que fit le vieillard après ces mots. Écoutez-moi. Et pendant lequel il avança son coussin sous les pieds de Godefroy pour le partager avec lui. J'avais alors un peu plus de 30 ans, dit-il. Nous étions en 98, autant qu'il m'en souvient, une époque où les jeunes gens devaient avoir l'expérience des gens de 60 ans. Un matin, un peu avant l'heure de mon déjeuner, à 9 heures, ma vieille femme de ménage m'annonce un des quelques amis que j'avais conservés au milieu des orages de la Révolution. Aussi, mon premier mot fut-il une invitation à déjeuner. Mon ami, nommé Mongenot, garçon de 28 ans, accepte, mais d'un air gêné. Je ne l'avais pas vu depuis 1793. « Mongenot ? » s'écria Godefroy. « Le... Si vous voulez savoir la fin avant le commencement, reprit le vieillard en souriant, comment vous dire mon histoire ? » Godefroy fit un mouvement qui promettait un silence absolu.